Sayonara, Leiji-sama. Les otakus du monde entier l'ont appris aujourd'hui, et c'est avec une profonde émotion que les médias et les réseaux sociaux ont annoncé le décès de l'immense mangaka Leiji Matsumoto à l'âge de 85 ans. Cette triste nouvelle a laissé un grand vide dans la pop culture, car avec lui disparaît toute une génération d'artistes talentueux. Mais surtout, son personnage fétiche, le Capitaine Harlock, Albator en français, a marqué toute une génération de petits garçons, de petites filles, qui depuis ont grandi avec l'animation japonaise et le manga. Je vous propose donc, à titre d'hommage et exceptionnellement, de redécouvrir ensemble mon tout premier dossier que j'avais consacré à l'époque à ce mangaka qui a une place particulière dans mon cœur. Merci à vous, Leiji, où que vous soyez, et peut-être un jour aurions-nous l'occasion de boire un verre de saké au carrefour du temps. Mangaka Story. L'émission qui parle de manga, mais pas que. L'univers de Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator. Si l'évocation des noms Albator, le capitaine de l'espace, Queen Emeraldas ou encore le Galaxy Express 999, ça vous dit quelque chose ou ça vous remet un petit air dans la tête, c'est que vous avez connu l'âge d'or des dessins animés en France. Ça fait peut-être un petit peu vieux réac, mais bon, pour nous, on appelle ça l'âge d'or. Avant d'être des animés qui sont passés sur certaines chaînes de la télévision française, ce sont au départ des mangas. Alors, je pense que vous connaissez le terme, un manga qui vient du Japon, des bandes dessinées. Ce sont, quand on traduit ce qui est très drôle, ça veut dire image dérisoire au départ. Et l'un des premiers à l'avoir trouvé, c'est Okusai. Et ces mangas sont arrivés, eux par contre, un peu plus tard, chez certains éditeurs, au fur et à mesure, à partir des années 90, et un grand boom dans les années 2000, dont on reparlera un tout petit peu plus tard. Ces mangas ont eu énormément de succès lorsqu'ils sont arrivés en France auprès du public, vu qu'ils connaissaient ce public déjà ces séries par le biais de l'animation. On parlait d'Albator, on parlait de Queen Emeraldas. Derrière ces titres qui nous font rêver, il se cache un artiste, il se cache un grand homme, Leiji Matsumoto. Alors, le nom, lui, par contre, est beaucoup moins connu en France que celui de Capitaine Albator, mais c'est un homme qui est très aimé et très respecté de son public de fans qui est assez fidèle. Il multiplie les aventures de ses personnages pour notre plus grand plaisir. Parlons un petit peu de notre ami Matsumoto, de son vrai nom Akira, qu'on connaît sous le pseudonyme de Leiji, qui signifie qu'on peut traduire en français par le chiffre zéro, tout simplement. Cet homme est né en 1938 dans la ville de Kurume, qui se trouve dans la préfecture de Fukuoka. Alors, si vous connaissez pas trop le Japon comme nous, faut imaginer que cet archipel de quatre îles principales est divisé non pas en régions ni en départements, mais en préfectures, ce qui correspond à peu près grosso modo à nos départements. Cet homme est encore en vie, hein, bien sûr, il faut le souligner, et il est toujours actif. Son père était officier dans l'armée de l'air. Alors si vous faites le calcul, il est né en 1938, ce qui fait que papa officier, il a connu la Seconde Guerre mondiale, hein, tout bêtement, et en tout cas, il lui a donné l'amour des mécaniques et surtout des avions. Ce qu'on peut voir dans toute son œuvre. Son autre passion à Leiji Matsumoto, c'est la bande dessinée, qui va le toucher très très jeune, comme d'autres auteurs assez phares de cette génération. Comme beaucoup de jeunes gens de son époque, Leiji Matsumoto va être touché par un artiste qui est considéré comme culte par beaucoup d'entre nous, y compris au Japon, en Europe et on pourrait me dire dans le monde aussi, c'est le célébrissime Osamu Tezuka. Alors Tezuka, le nom peut-être ne vous dit rien, mais si vous connaissez Astro le petit robot, vous allez voir tout de suite ce dont je veux parler. À 15 ans, Leiji Matsumoto fait son premier manga, il participe à un concours. Alors pour faire très simple, au Japon, connaître des auteurs, beaucoup de maisons d'édition invitent les jeunes à des concours pour gagner des prix ou se faire connaître. Ils envoient leurs chapitres, des petites histoires qui tiennent entre 8 et 10 pages. Et certains auteurs seront ainsi primés et auront l'honneur d'être publiés dans des magazines de prépublication et pour certains d'entre eux même carrément être publiés dans des recueils destinés directement à la vente. Leiji, donc à 15 ans, gagne son premier concours. C'est une histoire qui s'appelle, alors je vais vous donner le titre en français, Les aventures d'une abeille. On dit comme ça, c'est sûr que ça fait pas très science-fiction, mais bon. Mais en tout cas, cette histoire a le mérite d'être primée dès le départ. Hein, et il mettra tout de suite le doigt dans l'engrenage, si on peut reprendre la métaphore des avions. Et c'est ainsi qu'il se fait connaître dans le monde de la bande dessinée. Même s'il a été primé, il continue quand même ses études. Hein, c'est un jeune gens bien poli et bien élevé, il fait bien plaisir à ses parents. Et il continue son lycée. Et une fois son diplôme en poche, en 1957, le jeune Akira va monter à Tokyo, il monte à la capitale comme beaucoup de jeunes de son âge, des bulles plein la tête. Alors, les premières années de Matsumoto en tant que professionnel de la bande dessinée sont plutôt éclectiques, hein, comme beaucoup. À cette époque, il va contribuer à des périodiques dans certains styles assez loin de ce qu'on connaît de lui maintenant. Alors, pour faire une petite parenthèse, amis auditeurs, il faut savoir que le manga est classé en trois catégories. Le shoujo, qui lui est plutôt destiné à un lectorat féminin, avec notamment beaucoup d'histoires sentimentales. Pensez par exemple à Candy Candy. Vous avez le shonen, lui, qui est plutôt adressé à un lectorat masculin, mais assez jeune. Un peu comme Dragon Ball ou Naruto maintenant. Et le seinen, qui lui est plutôt adressé à un lectorat jeune adulte, hein, des histoires un peu plus sombres, policières, avec pas mal de meurtres, beaucoup d'hémoglobine. Et ce sont trois catégories qui sont bien distinctes dans les bacs au Japon, ce qui est malheureusement pas le cas dans parfois certaines librairies françaises, notamment dans les supermarchés où parfois certains petits bambins peuvent se retrouver avec un manga avec beaucoup de scènes assez glauques, voire très très glauques entre les mains. Et ça, c'est bien dommage parce que ça contribue à donner encore une mauvaise image à cet art, mauvaise image dont on en reparlera souvent dans cette émission, car elle nous a profondément blessés en termes de lecteurs aussi, et c'est souvent un mauvais souvenir. Hein. Je sais que moi, quand j'étais jeune, je cachais mes mangas. Alors, c'est pas bien, faut pas le faire, je vous le dis tout de suite, c'est pas bien du tout. Je m'adresse surtout à ceux qui préparent des examens, c'est pas bien du tout. Moi, je planquais mes mangas dans les abreuvets, et je me mettais dans le fond, et je me suis fait choper une fois parce que mon professeur me trouvait trop sérieux, et j'étais vraiment plongé, et je voulais savoir si Sangohan allait tuer Cell, et bon, bah voilà. J'ai jamais pu. En plus, il me l'a confisqué. Le fourbe, j'ai jamais eu d'ailleurs. Il me l'a jamais rendu. Tant pis pour moi. Bref. Alors, reprenons maintenant l'histoire de Leiji Matsumoto. Alors, maintenant que vous savez faire la différence entre les trois catégories, il faut savoir que Leiji, lui, va commencer par la version fille. Il va commencer par dessiner des shoujo. Et il va se faire un nom assez réputé là-dedans. Hein. Alors, c'est certes un travail alimentaire au départ. Et ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que ça va lui permettre de rencontrer sa femme, qui est également une dessinatrice, qui est restée dans ce style-là. Ils vont se marier au début des années 60, si ma mémoire est bonne. Toujours dans cette période-là, entre deux scénarios et quelques planches destinées à un lectorat féminin, Matsumoto va commencer à réfléchir à des histoires de science-fiction et notamment des histoires un peu humoristiques également, parce que c'est un peu sa marque de fabrique. Ce qu'on verra en 1972 avec son premier manga qui est à la fois humoristique et de science-fiction, qui s'appelle Je suis un garçon, qui obtiendra en plus le prix culturel de Kodansha en 1972. Ce qui fait que ce manga, Je suis un garçon, le fera vraiment repérer par la critique nippone, à tel point qu'un hebdomadaire japonais le qualifiera d'héritier de Tezuka, ce qui est plutôt intéressant quand on connaît l'influence de Tezuka dans le monde du manga moderne. Les années 60 vont marquer un tournant majeur dans la carrière de Leiji Matsumoto. Afin de montrer son style et son univers si reconnaissable, déjà, Leiji va officiellement adopter son nom d'emprunt, donc le fameux Leiji Matsumoto et non plus Akira Matsumoto. Alors il faut faire attention en japonais, le R et le L sont assez semblables, ce qui fait qu'on a parfois, quand on traduit en français, des erreurs de production. Alors, quand ils prononcent la lettre, ça fait une espèce de mélange des deux qui est assez difficile pour une langue française à prononcer. Le surnom Leiji viendrait, alors là ici les sources ne sont pas forcément toutes d'accord, mais tout à l'heure je vous parlais de sa passion pour les avions. Une passion qui ne la quitte pas. Et ça viendrait du chasseur Zéro, hein, le fameux chasseur de l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 60 et sur toute cette décennie, il va toucher à différents registres. Le registre, le shoujo, le comique, comme on l'a dit. Il va aussi toucher au récit de guerre, un genre qui n'avait pas encore commencé, avec un manga qui n'est pas encore publié en France, qui s'appelle The Cockpit. Alors la version papier n'est pas publiée en France, par contre la version animée elle a été chez nos amis de Kaze Edition, qui nous l'avait sorti en VHS à une certaine époque, puis l'avait réédité en DVD. Mais c'est magnifiquement fait en termes d'animation. En termes de scénario, c'est super. On a trois mini-histoires indépendantes sous trame de Seconde Guerre mondiale avec différents points de vue, ce qui est très intéressant. Et la version papier, malheureusement, est encore inconnue chez nous. Ça fait penser au point de vue qu'avait pris Clint Eastwood dans ses deux films, hein, Mémoire de nos pères et Les Lettres d'Iwo Jima, où il va reprendre le même événement historique, mais du point de vue, dans le premier film, de l'armée américaine et dans le second, du point de vue de l'armée japonaise. Et dans les animés de Matsumoto, qui s'appelle The Cockpit, On a ces deux points de vue qui se confrontent, ce qui est très intéressant quand on veut un peu mieux saisir cette période. En 1968, après avoir touché aux récits de guerre et au western également, il va signer son premier gros succès de vente avec un manga de science-fiction légèrement teinté d'érotisme, et oui, qui s'appelle Sexaroid, forcément, avec un nom comme ça annonce la couleur. Alors n'oubliez pas, on est en 1968, hein, c'est un petit peu la période de la science-fiction qui est teintée avec de la cuisse légère, si vous me permettez cette expression. Si vous pensez par exemple en France, on avait Barbarella, on commence à avoir des auteurs qui se font connaître avec, pensez par exemple Mobius. À partir de Sexaroid, notre mangaka préféré va maintenant enraciner son travail dans l'univers de la science-fiction qui devient officiellement son registre de prédilection. Coup sur coup, dans les années 70, il va être à l'origine de séries majeures. Gun Frontier en 1972, qui est à la fois plutôt teinté western, mais dont on a quelques petites touches de science-fiction, qui va faire un petit peu la transition entre les deux univers. En 1974, c'est la création du Space Battleship Yamato, qui est arrivé en France il n'y a pas très longtemps aux éditions Black Box, Danguard A la même année, et à partir de 1977, nous voyons arriver dans la Voie lactée le fabuleux Galaxy Express. Alors c'est un scénario complètement délirant, mais imaginez traverser l'espace dans un train du 19e siècle, il fallait y penser. Et bien sûr, en 1978, arrive dans les planches japonaises un personnage que vous connaissez tous, hein, il a la joue balafrée, un bandeau sur l'œil et un joli t-shirt qu'on est très très nombreux à envier, le capitaine Albator. Alors Albator, ne serait-ce que le nom, hein, on parlait de Captain Harlock tout à l'heure, qui est le vrai nom d'Albator. Le générique, vous l'avez entendu, je pense que vous ignorez qui se cache derrière cette jolie petite musique et ces mignonnes petites paroles. Alors ce sont des chanteurs qui étaient à la mode à l'époque en 1978, j'espère que je ne vais pas les vexer si jamais ils écoutent l'émission. Il s'agit d'Éric Chardin, bon lui c'est sûr il nous en voudra pas, et Didier Barbelivien également, qui sont à l'origine de ce générique assez très typique des années 70 avec les petits tutu qui sont derrière, dont certains qu'on retrouve également dans Captain Flamme, hein, si vous vous rappelez le générique aussi. Alors le nom Albator est une composition qui a été créée par ces deux chanteurs-là. En effet, lorsque Antenne 2, à l'époque, lance l'émission Jeunesse, animée par l'équipe d'une ancienne speakerine qui est connue sous le nom de Dorothée, il fallait trouver des dessins animés à passer, et notamment des dessins animés qui ne coûtaient pas trop cher à l'achat, contrairement aux dessins animés qui étaient produits en France. Du coup, les éditeurs d'émissions et les dénicheurs de programmes vont se tourner vers le Japon, qui est un pays qui commence à se faire connaître en termes d'animation. Certains grands noms comme Monsieur Huchez qui nous a quittés cette année, qui était très très connu pour être à l'origine de nombreuses séries qui sont arrivées dans les années 80. Et lorsqu'ils achètent auprès de la Toei la série Captain Harlock, donc qui est connue en France sous le titre d'Albator 78, le nom va les gêner un petit peu dans le sens où on est dans les fins des années 70, début des années 80, Harlock, le nom, ça fait un peu penser à un autre personnage qui est très connu des jeunes à l'époque, Haddock. Et les programmateurs de l'émission Recréa 2 avaient peur que les enfants confondent les deux capitaines. Ils sont tous les deux capitaines, forcément, en référence à la marine. Il y en a qui s'appellent Haddock, Locke, Tarlock. La similitude des deux noms est assez proche. Du coup, il faut trouver un nom tout en essayant de respecter un peu ce côté. Ouais, c'est un corsaire de l'espace, une histoire un petit peu de la marine. Et à cette époque, il y a un joueur de rugby qui s'appelle Ballator. Et Eric Charden est un grand fan de ce joueur de rugby. Ballator est surnommé par ses équipiers l'Albatros. Et du coup, dans la petite tête d'Eric Charden et avec son collègue Didier Barbolivien, il décide du coup de mixer un petit peu les deux noms, ce qui va nous donner Albator. Les chiffres également derrière les noms des séries d'Albator sont intéressants. C'est l'année où ça a été traduit en français avant que ça arrive du coup sur nos petits écrans. Albator, l'émission fait plutôt sensation hein, sur Recréa 2. Hein, les histoires un petit peu sombres qui changent un petit peu de des héros assez positifs et gentils comme Tintin, on en parlait tout à l'heure, ou encore Spirou qui était connu des enfants de cette époque. Albator arrive, on sait qu'il a un passif, on connaît pas trop d'où il vient, on sait qu'il surgit d'un petit peu nulle part. Toujours prompt à donner le coup de main, si on peut dire, mais en tout cas un personnage qui a un vécu, qui a un background, comme on dit, et qui se lance dans une époque qui, elle, est un petit peu sombre. Si vous me permettez, je vais vous lire le monologue, justement, qui commence le premier épisode d'Albator 78, qui est lu par Albator dans la série, qui est doublé dans la série 78 par l'acteur Richard Darbois, qui est une voix assez significative. Richard Darbois, d'ailleurs, qui reprendra son doublage dans les séries d'Albator qui sortiront début des années 2000 lorsqu'elles seront traduites pour les éditions DVD. Le premier épisode commence ainsi. Lorsque toutes les mers du globe disparurent de la surface de la Terre, les hommes pensèrent que la fin du monde était proche. Ils se désespérèrent sans même songer aux richesses que l'espace infini pouvait leur offrir. En l'an de grâce 2980, les terriens nagent dans l'opulence. Les robots exploitent les ressources d'autres planètes. Tout ce qui est récolté est distribué à la population gratuitement. L'homme du 30e siècle est asservi et ne réfléchit plus. Il ne pense qu'à lui et à ses plaisirs. Toutefois, les seigneurs craignent qu'un sursaut d'orgueil ne pousse un jour l'humanité à relever la tête. Alors, par le truchement de l'abêtisseur mondiovisuel, ils bloquent les pensées. L'homme d'aujourd'hui est asservi, et comme il ne réfléchit plus, il se croit heureux. Moi, Albator et mon équipage, nous avons échappé à cette mise au fer morale. Nous sommes les seuls à pouvoir prévenir nos semblables du danger qui les menace. Sans doute, pour préparer leur invasion, les Sylvides ont détruit presque tous nos observatoires et assassiné les plus éminents de nos astronomes. Alors avec une introduction comme ça, c'est sûr que là, on est au pays de Candy. Hein, c'est vraiment, on imagine tout de suite les petits bonbons et les petits ratons laveurs. C'est assez typique de la science-fiction des années 70 d'ailleurs, hein, cet état d'esprit soit post-apocalyptique ou alors complètement cynique du point de vue de la relation humaine. Et les thèmes qui sont dans le monologue d'ailleurs sont des thèmes qui sont assez chers à l'auteur hein, et qui essaye de distiller ça dans différents personnages. Alors ce qui est très très drôle, hein, c'est quand même la phrase « Alors par le truchement de l'abêtisseur mondiovisuel » sur cette phrase-là, l'image qu'on voit, ce sont des gens regarder la télé. On est dans les années 70 et on a un auteur qui dénonce le fait que la télé, ça rend complètement demeuré, ce qui est plutôt amusant d'ailleurs hein, vu qu'on le succès de la télévision dans les années 80, 90 et 2000 et encore maintenant. D'accord, c'est un des premiers auteurs qui touche un jeune public qui va dénoncer le fait que voilà, on va abêtir les gens par des programmes complètement débiles et pour éviter de les faire réfléchir. Du coup, dans la série Albator 78, Albator est un officier renégat qui navigue dans l'espace avec ses 42 hommes d'équipage. On insiste bien sur le chiffre 42, il est très important pour comprendre l'histoire. Alors, on peut peut-être aussi y voir une référence au livre de Douglas, hein, Le Guide du Voyageur Intergalactique, si vous connaissez, hein, donc c'est la grande réponse à la question pourquoi la vie, quand le grand ordinateur répond 42, hein, c'est un grand moment. Le chiffre 42 était assez mythologique dans la galaxie geek. Alors Albator et son équipage, comme on l'a compris, sont les seuls à connaître, en tout cas à vouloir affronter la grande menace qui menace la Terre en 2980, c'est l'invasion des Sylvides. Alors les Sylvides, si vous vous en rappelez, et pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des extraterrestres de forme féminine, qui sont un peu bleu-verdâtre, hein, et qui sont plutôt même d'ailleurs une espèce végétale, qui font penser aussi parfois à des sirènes, parce qu'elles sont attirantes, un peu, ou des sirènes ou des succubes, hein, ça dépend du point de vue, et qui vont attirer pour détruire. Et elles veulent coloniser la planète, hein, vu que ça leur plaît et que visiblement elles n'ont que ça à faire. Tout sympa pour s'occuper les week-ends. C'est un peu sommaire, hein, mais quand on a la haine, c'est comme ça. Chose qu'il faut savoir aussi, les sylvides, lorsqu'on leur tire dessus et lorsqu'elles meurent, elles vont brûler comme du papier avec un espèce de cri très strident qui était assez flippant d'ailleurs quand on était gamin, quand on regardait la série. Hein, ça faisait un petit peu peur, hein, de voir cette femme brûler tout d'un coup. Comme ça, et surtout le son qui était plutôt bien fait là-dessus. Dans cette série, Albator reste très attaché à la Terre, même s'il a beaucoup de haine contre le gouvernement, notamment le fameux Premier ministre qui pense qu'à ses trous de golf. Il est très attaché à la planète par la promesse qu'il a fait à son meilleur ami, le grand ingénieur Toshiro, qui est le créateur du navire d'Albator, le célébrissime Arcadia. Et dans cette série, il est d'autant plus attaché car sur Terre vit encore la fille de son meilleur ami qui est placée dans un orphelinat et Albator va régulièrement la voir. D'ailleurs, c'est également un twist scénaristique qu'on revoit assez souvent dans la série, vu que Stelly, le personnage de la petite fille en question, est parfois kidnappée ou elle est menacée. Et du coup, on essaie de faire pression sur la petite pour faire sortir Albator de sa cachette et essayer en vain de le capturer. La série Albator 78... Alors moi je l'ai revu, hein, à titre personnel, certains éditeurs avaient trouvé ça sympa de surfer sur un peu la nostalgie des années 80 et sortir des séries en intégralité en coffret VHS qui était plutôt joli. Et lorsque je l'ai revu, et c'est moi ce qui m'a surtout marqué, c'était le scénario. On en a déjà un petit peu parlé là il y a quelques instants, mais cette idée de montrer une planète Terre où l'humanité est complètement décadente, complètement hédoniste, hein, d'accord, sauf une toute petite minorité de personnes qui va du coup devenir de facto complètement hors la loi parce que hors système, elle sort du cadre, donc du coup, ah non, c'est pas bien, faut absolument les faire taire. Cette désillusion par rapport au consumérisme, hein, c'est comme, on est quand même dans la fin des années 70, on a un auteur qui dénonce le fait de la surconsommation à outrance, ces problèmes environnementaux aussi qu'on retrouve dans Albator 78 de temps en temps. Donc c'est quand même assez intéressant de montrer que cette personne était dans une autre période que la nôtre et dénoncer déjà un petit peu ce que sont devenues les années 2010. Et ce qu'on retrouve aussi dans cette histoire qui est assez marquante, ce sont les valeurs qui sont très chères à Leiji Matsumoto, hein, donc le respect des formes de vie. Hein, les sylvides, on dégomme tout sur un passage, il faut absolument tout raser pour tout reconstruire. Hein, alors que d'autres vont se battre pour, et même s'ils estiment que leur propre espèce est corrompue, mais vont quand même essayer de se battre parce qu'ils trouvent que dans cette espèce, il y a quand même du bon. Donc on peut parler également du facteur amour, hein, qui est très très fort dans les œuvres de Leiji Matsumoto, la force de l'amitié aussi, quand on pense à Toshiro et à Harlock. Donc, alors Toshiro qui est traduit malheureusement par Alfred en français. On parlait d'Albator 78 de son arrivée en France, chose qu'il faut savoir, c'est que, je parlais des coffrets VHS, et c'est grâce à eux qu'on a vu enfin la fin d'Albator 78 dans les années 2000. Les trois derniers épisodes n'avaient jamais été doublés lors de leur passage sur Recréa 2. Hein, il faut imaginer que cette série, les enfants n'avaient jamais vu la fin pour un truc qui peut paraître pas forcément idiot, le mot serait un peu fort, mais à l'époque, le CSA avait trouvé les trois derniers épisodes trop violents pour un public d'enfants. Faut imaginer que la série était quand même diffusée dans une émission qui s'appelait Recréa 2, donc un public assez jeune, et la fin, qui est une grande bataille spatiale, a été jugée trop violente, et du coup, bah, quick, dans un placard, pour la bonne histoire de la télévision, hein, et c'est un peu comme des maisons d'édition qui sont plus ou moins rachetées, donc après se pose le problème de qui a racheté les droits de telle œuvre culturelle, est-ce qu'on peut les transmettre, c'est encore nous qui les possédons, c'est un peu compliqué. Avant les coffrets, dans les années 2000, France 3 avait fait une émission qui passait uniquement pour les vacances de Noël. Ça passait en troisième partie de soirée, c'était très très tard, qui s'appelait Génération Albator. Alors, rien que le titre, ça envoyait le programme. Et dans cette émission, alors c'était animé par une voix off qui était une grande voix du doublage français des années 80. Je parlais de Richard Darbois tout à l'heure qui a fait ça. On a également une autre émission qui avait été faite par la personne qui doublait Ulysse dans la série Ulysse 31. Et lors d'une de ces émissions, ils ont diffusé les épisodes manquants. Alors bien sûr, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils ont repris le staff de l'époque avec des voix qui ont du coup un peu vieilli, ce qui était plutôt sympa, par exemple Richard Darbois qui a participé aux trois derniers épisodes aussi. Mais grâce à cette émission, Génération Albator, on a enfin faire doubler et faire diffuser ces trois derniers épisodes qui ont été rapidement incorporés dans les coffrets. Alors là, ça va plutôt parler à certains... pas dire vieux d'entre vous, mais ceux qui ont connu La 5. Alors, je parle pas de France 5 à l'heure actuelle, mais je parle de la chaîne qui s'appelait La 5, cette fabuleuse chaîne de notre ami Silvio Berlusconi. D'accord? Si vous vous rappelez, qui était à l'époque producteur de télévision et qui s'était lancé, hein, avec tout un, beaucoup de showbiz, hein. Il avait raflé les animateurs stars des autres chaînes à grands coups de millions en leur offrant des montres en or, en allant même parfois, comme disait Thierry Ardisson dans une interview, en allant directement les chercher en hélicoptère chez eux, un truc complètement délirant. Et il avait voulu faire des programmes jeunesse aussi pour couper l'herbe sous le pied à TF1 qui avait lancé le Club Dorothée à cette époque. Et il avait fait comme toutes les autres chaînes, acheté en masse des animes japonaises. Et dans ces animes, on avait le Galaxy Express qui est arrivé comme ça. Et bam, alors, la claque, parce qu'en termes scénaristiques, déjà on parlait d'Albator 118 qui était très sombre, avec une ambiance lourde, pesante sur l'humanité. Alors le Galaxy Express, c'est un cran bien au-dessus, et c'est une série qui est vraiment, vraiment pas assez connue du public français, qui mériterait d'être davantage, parce que en plus, au Japon, les Japonais préfèrent la série Galaxy Express au Captain Harlock, ce qui est assez intéressant, hein, mais, alors que nous, en France, c'est plutôt l'inverse, vu que Harlock est arrivé dans les émissions jeunesse qui ont forgé les jeunes adultes que nous sommes. Alors si on revient un petit peu sur l'histoire d'Albator, la deuxième série d'Albator qui est arrivée en France, toujours en version dessin animé, est titré Albator 84, l'année de sa diffusion sur les chaînes françaises. Alors là, c'est le souvenir d'Albator, en tout cas pour ceux qui sont nés comme moi en 1980, c'est le générique. Ne serait-ce que le générique lorsqu'il arrive, avec les petits effets laser.
Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, frappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre.
Ah, quel générique! Oui, en effet. Comme je disais, pour ceux qui sont comme moi, qui étaient enfants, qui étaient placés devant la télé, la grande babysitter des parents dans les années 80. Et là, vous avez vu Narcisse x4 apparaître avec tous les noms des... Ce qui était aussi très bien fait dans le générique d'Albator 84, le générique français, j'entends bien, c'est qu'on avait les noms des doubleurs qui apparaissaient comme ça dans le fond, hein, qui est assez inédite, hein, parce que souvent les doubleurs sont mal considérés dans leur métier, alors que sans eux on aurait quand même beaucoup beaucoup de mal. Bref, alors Albator 84, Albator 78, deux Albator, deux années différentes, deux histoires différentes aussi, hein. Faut imaginer que pour son créateur, pour Leiji Matsumoto, il n'y a pas de continuité dans ces séries, il n'y a pas de chronologie dans les séries. Arrêtez de chercher quelle série vient avant, pourquoi ce personnage est comme ça alors qu'il est habillé une autre couleur dans l'autre série. Non, lui c'est son plaisir, il va reprendre des traces scénaristiques, il va reprendre des thèmes qu'il aime, il va reprendre des personnages qui lui sont chers. En général, nous avons Harlock, Toshiro et l'oiseau bizarre, hein, si vous vous rappelez, c'est l'espèce de grand corbeau avec un petit bandeau sur le bec. Et voilà, mais il va s'amuser à reprendre ses histoires, à reforger un univers, mais il n'y a pas forcément de cohérence et de continuité entre les séries. On parlait du doublage tout à l'heure aussi, Yataran et Toshiro qui sont deux personnages différents. Alors Toshiro qui est lui l'ingénieur, le génie qui va créer les navires d'Harlock et également d'Emeraldas. Et Yataran ont été traduits en français sous le même prénom d'Alfred, ce qui fait qu'on se retrouve avec Albator 118 où on voit Yataran, donc le lieutenant qui passe son temps à faire des maquettes, qui se fait appeler Alfred, et dans Albator 84 où on a le personnage de Toshiro et qui se fait aussi appeler Alfred, ce qui peut parfois amener une confusion entre les deux personnages. C'est très typique de l'arrivée des animations japonaises en France dans les années 80-90, où il fallait franciser les noms. On pensait que c'était pas bien de donner le vrai nom d'un personnage, surtout un nom qui était n'est pas occidental, on pensait que ça passait pas bien, comme pour Captain Haddock et Harlock, là, ou alors que le public ne suivrait pas, ce qui parfois donne des horreurs de doublage. On peut en parler si vous avez vu la série Neon Genesis Evangelion, par exemple, qui est une magnifique série de science-fiction du studio Gainax. Mais alors, par contre, le doublage français qui a été fait, mais à la tronçonneuse, hein, c'est un massacre. D'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait même une parodie du doublage de cette série qui a été faite à l'époque par Goto One, qui était un studio où ils s'amusaient à remixer les épisodes, à faire des parodies avec souvent un humour assez scato, mais ils s'étaient amusés à montrer ah bah tiens, Evangelion a été doublé par une équipe de Marseillais qui a même pas vu l'animation et ils ont fait ça en 10 minutes. Mais le personnage Shinji, le personnage principal, qui a quand même changé de nom plusieurs fois dans un même épisode, ce qui était quand même assez éloquent sur le manque de soins qui était apporté à cette œuvre. Hein, faut imaginer que au Japon, certains qu'on va appeler voilà des dessins animés, bah en France, un dessin animé, c'est pour les enfants. C'est souvent la mentalité qu'on a eue dans les années 80-90. Voilà, c'est ça. Alors que au Japon, bah une série d'animation, c'était pour les enfants, hein, Doraemon par exemple, mais c'était pour les jeunes adultes, Albator. Il y avait des horaires de diffusion bien précises. C'est-à-dire qu'on peut avoir des séries d'animation à 2h du matin qui sont ultra violentes, hein, Berserk par exemple, hein, qui est de l'heroic fantasy, mais alors faut pas manger devant, hein, mais et après parce que sinon vous allez avoir quelques petits problèmes de digestion. Et on a des séries Hamtaro par exemple, qui est un hamster très très mignon pour enfants avec des très gros yeux, très très kawaii comme ils aiment bien, et voilà. Mais il y a des horaires de diffusion, alors qu'en France on était resté sur un dessin animé c'est pour les enfants. Et okay, alors revenons à Albator quand même, parce que là on est en train un peu de dériver dans l'espace-temps. Dans la série Albator 84, on retrouve les thèmes phares de Leiji Matsumoto. On trouve d'ailleurs les personnages, on en a parlé. On retrouve cette idée du parcours initiatique par le prisme de deux enfants qui vont être sauvés in extremis par Albator et son équipage, et qui vont vivre avec lui sur l'Arcadia. Alors l'Arcadia, c'est le nom de son navire, hein, qui s'appelle l'Atlantis en français dans la traduction. Albator, dans cette série, il veut trouver une planète où vivre, d'accord, où il n'y aurait pas d'oppression, pour fuir une autre race d'extraterrestres qui s'appelle les humanoïdes, qui ont envahi la Terre et asservi sa population. Il pense qu'il est possible de trouver une planète, ce qu'ils appellent en français la planète idéale, ça revient assez souvent dans les épisodes, pour aller y vivre. Dans cette série, donc le scénario se démarque assez fortement de la première, hein. Ce qui est assez amusant pour mieux comprendre cette série, c'est qu'il fallait d'abord voir un film qui s'appelait L'Atlantis de ma jeunesse, dans la traduction française, et film qui a été longtemps inédit en France, mais vraiment longtemps, parce que la première fois qu'on l'a vu, c'est dans une émission jeunesse qui s'appelait Les Minicums sur France 3. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette émission, hein, c'était avec des petites marionnettes type Guignol de l'info, mais qui représentaient de manière enfantine des personnalités de la télé. Il y avait Nagnag qui était Nagui, il y avait Coco qui était Antoine Decaune, etc., etc., qui faisaient des petits scénarios très rigolos, des petites histoires entre deux dessins animés. Et lorsqu'ils avaient repassé Albator 84 dans cette émission, à la fin des années 80, de 1997, ils avaient passé la série et ils avaient coupé le film en 5 épisodes, comme le film faisait à peu près 1h30, ce qui faisait grosso modo 5 épisodes. Et on voyait du coup la genèse de la série Albator 84 avec des trucs assez intéressants. Là, on voyait les ancêtres de Toshiro et de Harlock qui se connaissaient, qui s'étaient sauvés dans le passé, les deux familles qui étaient plus ou moins liées, qui se retrouvent. On voit Albator qui, au début de cette saga, essaye de sauver des rescapés terriens, qui se fait choper par les patrouilles humanoïdes, il essaye de cracher son vaisseau pour le rendre inutilisable, le fameux Death Shadow, hein, et bon, il réussit son coup, il se fait convoquer, il se fait licencier, il va dans un bar, parce que alors, c'est un truc très typique de l'univers de Matsumoto, mais les personnages ont une fâcheuse tendance à lever le coude. Et dans ce saloon, il va trouver Toshiro, qui lui aussi noie son chagrin, et Toshiro va proposer à Albator de piloter son nouveau vaisseau. Alors, faut imaginer quand même l'astuce de cet ingénieur, hein, qui va réussir au nez et à la barbe des humanoïdes à créer le plus grand vaisseau de guerre terrien, mais alors juste sous la base des humanoïdes, hein, d'accord? Parce que dans la scène, vraiment, quand ils vont décoller, c'est très drôle parce qu'ils arrivent à faire décoller le vaisseau qui est sous la terre et à défoncer la piste d'atterrissage de la base ennemie, ce qui est très très drôle. Et le vaisseau part comme ça. Alors, le vaisseau, le célébrissime Arcadia, c'est celui qui est le plus connu du public français. On a ces grands verres avec une grande proue, avec une grosse tête de mort dessus, qu'on voit d'ailleurs dans le générique, hein, on voit avec les batteries de canon. Et ça, c'est très typique de l'univers SF de Leiji Matsumoto, où on a cette espèce de mélange des genres. On parlait du Space Battleship Yamato au début d'émission, où on a un cuirassé de type Seconde Guerre mondiale qui vole dans l'espace avec des gros moteurs à l'arrière. L'Arcadia, c'est, il faut imaginer l'arrière du vaisseau qui ressemble à un galion. Hein, on voit d'ailleurs quand il y a des scènes où on a Albator dans sa cabine, où on voit les croisées de bois qui étaient très typiques de l'arrière des galions. Le Queen Emeraldas qui a une espèce de gros zeppelin avec un galion en dessous. Mais ce mélange des genres est assez rigolo et du coup, en termes d'imaginaire, est plutôt intéressant. Cette série, quand on la regarde encore même maintenant, parce qu'elle a été rééditée en DVD, maintenant, même dans des éditions qui sont plutôt très jolies en termes d'objets, bah, elle n'a pas trop vieilli en termes d'animation. C'est très qualité, le caractère design est magnifique, hein, c'est un dessin animé qui est très agréable à regarder à l'œil. Ce qui est intéressant aussi dans cette série, dans Albator 84, c'est qu'on en apprend un peu plus sur le fameux Toshiro, donc l'ingénieur, le créateur du vaisseau d'Albator, sa relation sentimentale avec la femme pirate, Emeraldas aussi, et on apprend également comment il meurt. Parce que la mort de Toshiro dans les séries liées à Albator est un élément fondamental du scénario, également dans Galaxy Express, hein, parce qu'il y a une espèce de crossover à un moment donné où on apprend comment Toshiro va continuer à vivre malgré sa mort physique. Si on va pas spoiler tout de suite l'histoire du Galaxy Express, mais Toshiro en fait est toujours officiellement un membre de l'équipage, hein, vu qu'il va trouver un moyen de transcender un peu la mort, hein, grâce à la technologie. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Alors si vous êtes attentif depuis le début de l'émission, et je sais que vous l'êtes, de toute façon vous n'avez pas le choix, on emploie souvent le nom, donc on a Harlock, Airlock, on a Albator, donc c'est pour ça qu'on a expliqué tout à l'heure que c'était le même personnage. On ne vous a pas expliqué par contre d'où venait le nom. Le vrai nom, hein, non, je parle pas d'Albator, ça on l'a fait, mais le nom Harlock en fait. Là aussi il y a une petite histoire qui est assez amusante, qui a été racontée par le maître lui-même dans une interview qu'il a pu faire, pareil, pour l'édition japonaise du coffret DVD Albator 84. Le nom en fait au Japon c'est Airlock. Herlock, hein, qui est parfois traduit par Harlock, ça dépend du pays où on le prend, mais normalement c'est avec le E. Et c'est tout bête, en fait, c'est Matsumoto, quand il était gamin, en fait, il avait pris l'habitude de créer Herlock pour rythmer ses pas. Il avait vu ça dans un film américain au cinéma. Un personnage qui marchait comme ça dans un film de guerre avec Herlock aussi. Alors que certains pensaient, vu qu'il fait aussi beaucoup d'aviation en loisir, dans certains types d'avions, en fait, quand vous fermez le cockpit, il y a avec une petite manivelle, c'est marqué Harlock. Locké, d'accord, fermé en anglais. Donc on pense aussi que ça viendrait de là, et du coup, à force de voir, soit avec le film qu'il a vu quand il était enfant, et de voir ça dans les cockpits d'avion, je me suis dit que Airlock, pourquoi pas, ça fait un peu pirate, ça fait un peu allemand, parce que, eh oui, il faut le savoir, le capitaine Albator est allemand. Hein, sa famille est d'origine allemande, hein, c'est von Harlock, justement, et c'est ce qu'on apprend dans d'autres séries annexes du personnage. Alors si on veut continuer sur la belle histoire du capitaine Albator, maintenant il faut franchir le cap des années. Depuis le début de l'émission, on fait un petit peu nos vieux geeks en disant oui, nous on a connu ça, on a connu ça. Il y a eu tout un passage à vide de l'animation un peu japonaise. Enfin, elle arrivait en masse avec le manga. Le manga papier va prendre le relais de l'animation japonaise dans les années 2000, hein, où il y a un effet de mode où tous les éditeurs vont se lancer avec le Glénat qui va racheter Akira, qui va racheter le droit de Dragon Ball, qui va racheter les gars de Gum. Après l'animation, elle plutôt tel dessin animé va un petit peu dans les émissions jeunesse, et ça va arriver par le biais des coffrets VHS puis des DVD. Beaucoup d'éditeurs vont se lancer sur le support vidéo et ont des séries liées à Albator vont nous arriver sous ce format-là en France dans les années 2000. Alors, Harlock Saga, c'est une série de 6 OAV. Alors, le terme que je viens d'employer, ce n'est pas un gros mot, c'est un acronyme, qui vient de l'anglais, hein, c'est Original Animated Video. En fait, il s'agit de dessins animés, hein, si on veut utiliser le vocabulaire français, qui sont uniquement produits pour le marché de la vidéo, soit sous format VHS ou sous format DVD. Ils ne sont pas destinés à passer à la télévision, ni au cinéma. Harlock Saga va nous arriver en France, au départ en VHS en 2001, donc 2 ans, après sa sortie au Japon, grâce à un magazine. Et ce magazine, il faut absolument que vous y jetiez un coup d'œil. C'est le magazine Animeland, qui existe encore, hein, qui au départ était un fanzine, qui est devenu un magazine, qui est le magazine de l'animation, et pas uniquement de l'animation japonaise, hein, même si au départ ils étaient vraiment axés sur cette animation-là, et maintenant ils sont axés sur tout type d'animation. Et ce magazine a eu l'idée de faire un hors-série avec, offert une VHS avec les 2 premiers épisodes de la saga, qui du coup mettait l'eau à la bouche, hein, pour ceux qui sont fans d'Albator comme vous et moi. Et du coup, en 2003, on a eu la sortie intégrale des 6 OAV en DVD. Alors là aussi, si vous êtes fan d'anecdotes assez sympas et si vous voulez briller en société grâce à nous, ici, Neji Matsumoto s'est fait plaisir, comme d'habitude, et il a voulu rendre un hommage assez particulier. Il a voulu rendre hommage au compositeur Richard Wagner. Alors oui, c'est vrai que ça fait très science-fiction, Richard Wagner, hein, en effet. Mais Matsumoto est un grand, grand fan de cet auteur. De ce fait, il a essayé de mélanger les genres. Matsumoto est un grand fan d'un opéra très particulier, Richard Wagner, qui est très... Alors, si vous connaissez un peu l'histoire de Wagner, vous savez qu'il a passé comme toute une grande partie de sa vie à mettre sur pied l'un des plus grands opéras du monde, hein, l'Or du Rhin, qui a été repris dans toute la littérature de l'heroic fantasy. Hein. Tolkien aussi s'est amusé à reprendre beaucoup de choses qui ont été faites par Wagner. Wagner qui a également repris beaucoup dans les légendes. Ce qui va laisser un peu perplexe le public français, parce que là, il n'était pas un peu habitué à ça avec Albator. Hein. C'est, faut imaginer 2001, les enfants qui ont vu Albator dans Recrea 2, ils ont grandi. Il y a un petit côté fanservice derrière. Mais finalement, quand on regarde cette série, l'animation, elle est d'une facture alors, magnifique en termes de caractère designer, en termes de scénario aussi. C'est très très joli à voir. Alors au niveau de l'histoire, ça reprend l'histoire de l'opéra de Wagner. On a un homme masqué qui va dérober l'or du Rhin. Alors là, ce ne sera pas le fleuve, ce sera une planète. À trois femmes qui avaient pour mission de le protéger. Il va faire forger un anneau avec cet or qui va lui permettre d'avoir des pouvoirs au-delà des dieux, notamment le dieu Wotan qui sera également dans cette série. Et il faut voir cette série parce que Albator va carrément renvoyer paître le dieu Odin, hein, d'accord, ce qui est plutôt amusant. Donc on voit qu'Albator est du genre pirate, voire parfois limite anarchiste dans cette série. C'est plutôt sympa. Regardez-la, elle vaut le coup. Autre série qui va arriver en 2001 aussi, hein, c'est une grosse année pour Leiji Matsumoto, c'est Cosmo Warrior Zero. On parlait du préquel tout à l'heure, la voici, hein, cette série qui va essayer de raconter une espèce de jeunesse où Albator, en plus, est un personnage secondaire dans cette série, hein, parce que le personnage principal, c'est Warrior Zero, donc un capitaine de la flotte galactique terrienne, là, qui reprend un peu une idée qu'on a déjà vue dans une série d'Albator, où les terriens sont envahis par une race extraterrestre, qui doivent être, il faut une politique d'occupation, et on a une collaboration des autorités terriennes. Et les autorités terriennes ont déjà perdu le capitaine Albator qui, lui, est parti naviguer dans l'espace avec son ami Toshiro. Et ils ont peur que le Warrior Zero fasse la même chose et décide de monter l'un contre l'autre, ce qui est un peu l'histoire de cette série. Regardez cette série parce qu'en termes d'animation, c'est superbe. Hein, c'est un cran au-dessus de l'or du Rhin. Mais également pour la fin de cette série qui est vraiment géniale parce que là, Matsumoto, il se fait un gros plaisir. Il revient sur son espèce d'humour un peu potache, un peu adolescent. Notamment où on va voir Toshiro et Albator qui vont se réfugier avec Zero sur la planète Calson. Ouais, vous avez bien entendu, imaginez que Toshiro est un ingénieur très talentueux qui a réussi à créer une planète à partir de ses caleçons sales. Et la blague des caleçons sales est assez récurrente hein, dans les séries de Matsumoto. Toujours en 2001, grosse année on l'a dit, c'est la sortie en animation de Gun Frontier. On en a parlé tout à l'heure, le manga sorti en 1972 qui a droit à sa version animée en 13 épisodes, qui est très joli à regarder aussi, hein, même si un scénariste c'est un cran un petit peu en dessous, en tout cas à mon sens. Hein. Mais bon, regardez-la quand même, ça vaut le coup. Sachant qu'en plus que une maison d'édition française, Black Box, hein, pour la citer, elle nous a fait très plaisir vu qu'elle a publié cette année les deux volumes de la série Gun Frontier en version papier. Et donc foncez dessus, vous serez pas déçus. 2005, quelques années après, c'est l'arrivée de Captain Harlock Endless Odyssey. Alors là, quelle série. Là, c'est vraiment quelque chose. On retrouve le côté sombre et vraiment très très sombre d'Albator 78, mais avec une animation très récente, très poussée visuellement parlant, hein, avec un Albator qui a les cheveux un peu plus long, donc ça rend un peu le côté limite malsain du personnage. On voit qu'il est très ténébreux, la scène où on le voit, il est dans une décharge. Il faut imaginer qu'il vit planqué sur la Terre, mais son vaisseau est dans une décharge. Son équipage est complet un peu partout. Et il va le reformer pour lutter contre une entité encore inconnue dans le monde de Matsumoto, hein, le mal absolu qui s'appelle le Noob. On parle d'Albator depuis le début de l'émission. Hein, c'est un personnage qui a ses propres séries. Là, on parlait d'Albator 78, 84 qui sont arrivés en France. On vient d'évoquer les séries qui sont sorties directement en DVD dans notre pays. C'est un personnage qui devient aussi un personnage secondaire dans d'autres séries, hein, et notamment dans une grande série très importante pour son auteur, le Galaxy Express 999. Est un personnage qu'on voit dans la version papier de cette série. C'est un personnage également qu'on voit dans les trois films. Dans le dessin animé, hein, qui vient souvent, qui arrive au bon moment pour sauver le jeune personnage principal. Tout à l'heure, je qualifiais Albator dans sa dernière série de personnage limite anarchiste. Hein. Il faut voir quand même dans l'univers de Matsumoto, c'est quelqu'un de très très libertaire. Hein, au niveau de la liberté, pour lui, c'est une valeur assez fondamentale. On trouve dans énormément de ses personnages et dans beaucoup de ses scénarios. Alors, le Galaxy Express, c'est une série hein, qui est passée inaperçue en France, sauf pour ceux d'entre vous qui ont regardé la 5 à l'époque. Hein. Et il a fallu attendre 2004 pour que les éditions Kana nous fassent l'immense joie de nous publier en français les volumes du manga, hein, et en plus une belle traduction, donc c'était plutôt sympa à lire, on les remercie. Au niveau de l'histoire, Tetsuro Oshino, donc un jeune terrien qui va voir sa mère se faire assassiner devant ses yeux par un androïde, plus rien ne le retient sur Terre, et il veut réaliser le rêve de sa mère, c'est-à-dire prendre le Galaxy Express 999 pour aller sur la planète des hommes-robots pour se faire mécaniser. C'est son grand rêve, sauf que les billets coûtent extrêmement cher. Et autre chose qu'on voit également dans le Galaxy Express, on n'en a pas parlé, c'est cette espèce également de clivage sociétal qui est très fort dans les séries de Matsumoto, où on voit un petit monde de nantis qui n'a de cesse que d'écraser une grosse majorité de prolos, hein, si on veut parler un peu comme ça. Hein. C'est très flagrant dans le Galaxy Express 999, où on voit les jeunes chics qui sont déjà mécanisés, qui vont humilier les enfants dans les rues, mendiant dans les rues, avec les gens mécanisés qui s'amusent à chasser les humains, avec une scène qui fait penser un petit peu à la scène de la chasse dans La Planète des Singes, si vous l'avez vu. Le Galaxy Express, du coup, Tetsuro Oshino se retrouve orphelin, il veut quand même prendre le Galaxy Express, il n'a pas assez d'argent, et c'est là qu'il va rencontrer cette jeune Maitel, une femme énigmatique, telle qu'on peut en voir souvent dans l'univers de Matsumoto, qui va lui offrir un billet, mais à la seule condition que ce soit elle qui l'accompagne lors de son voyage. Il saute sur l'occasion pour quitter la Terre, vu que plus rien ne le retient, et pour accéder à son immortalité. Au cours de leurs différents voyages, il faut imaginer donc le Galaxy Express, ce vaisseau qui part dans l'espace jusqu'à la planète Raometal, où les gens vont se faire mécaniser. On a des arrêts, comme dans n'importe quel train. Il y a une forme de train du 19e siècle, donc on va avoir des arrêts sur différentes planètes, et chaque arrêt va être l'occasion d'une aventure qui vont forger le caractère de ce jeune, et qui va rencontrer des personnages. Il va rencontrer par exemple la mère de Toshiro, dont on parlait tout à l'heure, qui va lui confier une arme, ce qu'on appelle les Gun Frontier, donc des armes très particulières. Si vous connaissez un peu l'univers de Matsumoto, ils sont très peu à les posséder, ce sont les armes de pirates, et on a Emeraldas qui en possède un. Il y a Albator qui en possède un aussi, et du coup on a Tetsuro et Maitel qui vont en posséder un autre. D'ailleurs, celui de Tetsuro, si on reprend la trame chronologique, si on s'amuse à en faire une, même s'il faut pas, c'est celle de Toshiro, en fait. Sa mère va lui confier l'arme de son fils qui a disparu. Série, au départ, s'arrête sur... je vais pas vous spoiler la fin, regardez-la parce qu'elle est vraiment magnifique. Hein. Lisez-la surtout si vous avez l'occasion de choper les volumes du manga. Si on revient sur le Galaxy Express, donc là, il y a une suite qui a été faite à partir de 96 en version papier. Donc Kana, quand ils ont acheté les droits de la série, ils ont tout édité d'un seul coup, ce qui fait que le public français, quand il a lu la série, à la fin de la série Galaxy Express, où Tetsuro est censé se faire mécaniser, on va pas spoiler, hein, il va se passer des événements qui vont faire qu'il revient sur Terre, et la série va reprendre à ce moment-là où Maitel va revenir le chercher parce qu'il s'est encore passé quelque chose et il faut absolument qu'il l'aide, et il sera pas tout seul vu que Emeraldas, la femme pirate, et Albator seront également là pour épauler Maitel dans son nouveau combat. Alors cette série, franchement, il faut vraiment que vous la lisiez, hein, en termes de scénario, c'est énorme. En termes de, si vous aimez la bonne science-fiction, alors attention, je parle pas de la science-fiction avec un scénario qui tient sur un timbre-poste, avec des sabres laser dans tous les sens et des bip-bip, des robots, des trucs comme ça. Non, non. Si vous cherchez vraiment quelque chose qui va flatter un petit peu votre intelligence, bah, lâchez-vous cette série, vous allez voir, vous serez pas déçus parce que c'est vraiment génial. C'est génial dans le sens où, voilà, on a du parcours initiatique, on a l'idée du voyage qui va faire d'un enfant un homme, au gré des circonstances, au gré des aventures, au gré de ses rencontres aussi, parce que le facteur humain, il est là, dans les rencontres. Alors, facteur humain qui parfois est représenté sous les traits extraterrestres, mais là c'est les interactions sociales. On parlait tout à l'heure que dans cette série il y avait un fort clivage sociétal, et là l'auteur insiste lourdement sur le fait qu'il faut que les gens se comprennent, faut qu'ils discutent entre eux, faut qu'ils se respectent, et ça c'est super important, hein, pensez un peu dans le contexte dans lequel on vit en ce moment. C'est vraiment le pari de l'immortalité, cette course à la jeunesse éternelle, à l'hédonisme, qui est un peu le consumérisme actuel, qui est dénoncé par l'auteur également dans cette série, avec le fait que pour vivre libre il faut faire des choix, et que l'amitié et l'amour sont cruciales, et ça c'est le condensé, c'est la catharsis de ce qu'on retrouve dans l'univers du Galaxy Express. On parlait des films également, si vous avez l'occasion de les trouver, hein, parce que maintenant c'est le terme qui convient, il faut les trouver, jetez-vous dessus, ne serait-ce que pour le premier qui date de 79, mais quand on le regarde, on n'a pas vraiment l'impression de voir un dessin animé qui date de 79, hein, c'est super moderne en termes d'animation. Il y a des pontes de l'animation qu'on travaille dessus, comme par exemple Rintaro, hein, qui est vraiment un animateur très important à la Toei Animation, qui a d'ailleurs travaillé sur énormément de séries d'Albator, notamment Albator 84 et Endless Odyssey dont on parlait tout à l'heure. Personnellement, moi je sais que quand on m'a offert le coffret à l'époque, le coffret collector que Kaze avait sorti, il y avait le t-shirt d'Albator dedans, c'est pour ça que je l'ai eu. J'ai regardé 3 fois d'affilée. Alors depuis Galaxy Express, c'est un peu pareil que pour Albator, dans les années 2000, il a eu droit à une espèce de petite nouvelle série qui s'est annexée à cet univers qui s'appelait Galaxy Railways, et chose qui est intéressante, c'est que Galaxy Railways est passé à la télévision en France et doublé, et ouais, sur France 4, Quand France 4 s'est lancé, ils avaient fait le pari de mettre l'animation japonaise. Hein. Ils avaient passé le Comte de Monte Cristo, Galaxy Rai West, quelques séries comme ça qui ont été rapidement passées aux oubliettes. Et ce qui est bien malheureux, que France 4 ait également passé aux oubliettes de mettre des animations nippones dans ses grilles de programmation. Même si c'est revenu par la suite en fin de soirée le vendredi. L'Attaque des Titans, magnifique série. Si vous connaissez pas, foncez là au-dessus. Vous serez pas déçus non plus. Nous voici donc arrivés à la fin de notre voyage dans la galaxie, dans l'univers d'Albator. Si vous voulez en savoir davantage sur l'univers d'Albator et de son créateur, on peut vous conseiller trois sites web si vous avez l'occasion d'y aller. Vous avez le fabuleux site albator2980.com qui fourmille d'anecdotes en tout genre sur les différentes séries et pas forcément celles qu'on a vues quand on était gamin. Vous avez le plus connu au niveau français, le albatorssx.com. Et je vous ai parlé également dans l'émission d'un webring qui s'appelle le webring tokinowa.net qui... T-O-K-I-N-O-W-A. Et alors, c'est un espèce de concentré de différents petits sites. Hein. C'est une équipe, ils sont tous fans d'Albator, ils sont tous fans du travail de Matsumoto. Du coup, allez faire un tour sur leur site. Hein. Ils essayent de faire beaucoup de choses, ils essayent de faire pression aussi un petit peu gentiment sur les éditeurs. Chers auditeurs, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci de nous avoir suivis. En espérant que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous, on a eu à préparer cette émission. Merci à vous. Longue vie et prospérité.